Vous me l'avez demandé et je vous ai écouté. Oui, c'est cet épisode, ou plutôt cette série d'épisodes, parce qu'il y en aura d'autres du même style sur les stratégies d'excellence et tout particulièrement une stratégie qui est, je pense, qui est d'ailleurs celle qui va le plus intéresser ceux qui m'écoutent, donc en l'occurrence toi, la stratégie Sherlock Holmes ou en d'autres termes, comment développer la science de la déduction telle qu'il a nommé lui-même, ou du moins selon les dires d'Arthur Conan Doyle. D'ailleurs, on va revenir sur le personnage d'Arthur Conan Doyle pour comprendre cette stratégie-là, et puis plus encore, et surtout pour pouvoir l'appliquer. On va faire également le lien avec les typologies de personnalité, puisque tu verras que le fait de développer tes capacités déductives te permettront de mieux voir, de mieux détecter les types de personnalités des individus qui se trouveront face à toi, tes amis, ta famille, tes meilleurs potes, ton pire ennemi, bref, un sujet passionnant. On est parti, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de Soi, et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Penn, je suis l'auteur de ce podcast, auteur et formateur depuis 2011, et au travers de ce podcast, je t'aide à découvrir cet univers infini qui est à l'intérieur de toi et tous les trésors cachés qui sont cachés au fin fond de ta personnalité. En parlant de personnalité, justement pour poser le contexte et l'intérêt et le sens de cet épisode au regard de la connaissance de soi, eh bien, on avait vu précédemment, dans un précédent podcast, la modélisation en PNL, notamment avec un personnage clé qui est Robert Diels, dont on avait parlé sur un podcast précédent sur la pyramide de Diels. Bref, on voit que finalement, on arrive sur des sujets qui sont assez liés les uns les autres, et c'est ça qui est chouette sur les épisodes, ce qui me plaît, parce qu'on fait des références entre différents concepts. Et donc, on avait vu, pour parler de modélisation, que finalement, une modélisation d'excellence, c'était comment arriver à détecter les qualités, les compétences, les aptitudes d'une personne et pouvoir les intégrer à soi. On avait vu les limites du modèle, mais en même temps, on avait vu que ce modèle-là, sa grande force, et c'est vraiment une des grandes forces de la programmation neurolinguistique, c'est d'arriver à extraire des compétences, des aptitudes, des capacités d'une personne et faire en sorte que n'importe qui puissent les utiliser. Est-ce que chacun va pouvoir les utiliser au même niveau d'excellence? Ça, c'est un autre sujet. Toujours est-il, la stratégie que je vais te donner là, qui s'appelle la stratégie Sherlock Holmes, qui est très peu connue d'ailleurs, petite parenthèse mise à part, je vais t'expliquer pourquoi aussi, eh bien, cette stratégie-là va te permettre de développer ton sens de l'observation, mais surtout de la déduction d'ailleurs. Qui n'a jamais rêvé d'être comme Sherlock Holmes, d'observer une personne, d'observer un lieu et à partir de quelques informations dont personne n'a pu capter l'intérêt, arriver à dire des choses très très précises sur la personne. Il suffit d'imaginer. Alors moi j'imagine, quand je te dis ça, le personnage de Sherlock, dans la série Sherlock, où on a Benedict Cumberbatch qui est en train d'observer pour sa première rencontre, le docteur Watson, et qui arrive rien qu'avec l'observation à déterminer qu'en fait celui-ci revient de la guerre, et c'est pour cela qu'il est médecin militaire. Comment peut-on arriver à déduire ça d'une personne qu'on vient de rencontrer pour la première fois? Mais on va lever le voile sur tout cela, et on va surtout se rendre compte que finalement, en fait, ce qui peut sembler un peu romanesque, et ce qu'il est d'ailleurs, disons les choses, ce qu'il est un petit peu d'un certain point, eh bien, provient d'une réalité. On va même commencer par cela. On va commencer par cela pour expliquer d'où vient cette capacité de Sherlock Holmes et est-ce que, justement, elle est quelque chose qui est issu du fantasme ou de la réalité. T'as déjà plus ou moins la réponse, mais on va comprendre le comment du pourquoi. Ça va nous permettre également de voir un petit peu les bases et de voir où trouver justement la détection de ces stratégies. Bref, en d'autres termes, revenir à la genèse. Alors, la genèse, c'est quoi la genèse? Eh bien, c'est tout simplement notre cher Arthur Conan Doyle qui donc a écrit les aventures de Sherlock Holmes, une série de livres, de nouvelles courtes ou un peu plus longues, et donc qui sont arrivées en 1887. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit tout type de détective moderne, Et pas que, eh bien, en attendant, on a toujours une référence à Sherlock Holmes. Il suffit de penser, par exemple, au personnage de Patrick Jane dans la série Mentalist, et bien d'autres personnages encore, sans parler, bien évidemment, des Sherlock Holmes modernes. Mais il y a un autre personnage qui est intéressant, et qui est bien plus proche de la réalité historique qu'on ne peut l'imaginer, c'est le personnage de Dr. House. Et le personnage de Dr. House est intéressant parce que justement ses capacités d'analyse et de déduction, il va pas les faire dans un point de vue criminel, comme on peut le voir sur Sherlock Holmes ou sur d'autres inspirations modernes, mais il va le faire sur la partie médicale. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arthur Conan Doyle, avant de devenir un auteur célèbre, a justement usé les bains de l'université, et tout particulièrement de l'université d'Édimbourg. Et c'était pas dans le milieu, on pourrait imaginer le milieu littéraire ou journalistique, mais dans le milieu médical, dans lequel il s'était pris, on va dire, de première passion, et justement visé une carrière de docteur. Et à l'université, donc nous allons revenir 10 ans avant les premiers écrits de Sherlock Holmes, en 1877, eh bien, il y avait différents professeurs et il était fasciné par un de ses professeurs. Ce professeur, né en 1837, qui est donc professeur à l'université d'Édimbourg et également docteur, se faisait appeler Joseph Bell. Il s'appelle Joseph Bell. Et ce personnage, Joseph Bell, était un bon professeur, mais avait surtout, à chacun de ses cours, une façon, on va dire, je dirais théâtrale, de marquer ses élèves. Et pour cause. Petite anecdote parmi une multiple, un jour, il a fait rentrer une personne dans son amphi, une personne qu'il n'avait jamais vue, il a demandé à un de ses élèves de désigner cette personne-là. Et rien qu'au travers de l'observation, il a réussi à déduire que cette personne est justement un militaire et même à identifier très rapidement des difficultés, des douleurs physiques qui étaient dues à des blessures anciennes. Alors, ça peut sembler étonnant, ça peut sembler fou et en même temps, c'est un lien avec Sherlock Holmes. C'est cette personne qui voit une personne qui arrive, waouh, et là, il y a ce détail, et à partir de ce détail, je déduis ceci. Et donc, ça a impressionné beaucoup ses élèves, dont ben, forcément Arthur Conan Doyle, qui s'est inspiré de Joseph Bell pour créer son personnage de Sherlock Holmes. Donc, on a ici l'inspiration de base, mais ce qu'il faut voir derrière cette courte histoire, c'est que déjà, la notion de possible, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Et plus encore, Conan Doyle n'est pas n'importe qui non plus, j'ai envie de dire, dans le sens où finalement, ce qu'il a observé du mode de fonctionnement de Joseph Bell, eh bien, il l'a réutilisé pour son personnage. Et pas seulement dans le sens où il y a un personnage qui analyse 2-3 trucs et qui arrive à trouver des conclusions. Non, il a également pu modéliser. Et donc, on en vient à la PNL, puis modéliser le mode de fonctionnement de ce fameux Joseph Bell, ce qui nous a amené donc le personnage de Sherlock Holmes. Alors, la stratégie Sherlock Holmes, après, a été une modélisation qui a été faite, entre autres, ce n'est pas la seule, et je vais t'expliquer cela, par Robert Diels sur son bouquin Strategies of Genius. Donc, on en avait parlé rapidement dans le précédent épisode. Donc, il avait fait Mozart, Walt Disney, Aristote, Tesla et bien d'autres. Et donc, le Sherlock Holmes de Conan Doyle. Mais au-delà de ça, ce que je vais te donner ici, donc ça a été ma recherche à moi, ce qu'il faut savoir, et là vraiment je vais rentrer plus sur la partie personnelle ou la partie me concernant, c'est qu'en fait ça m'a fasciné. À l'époque où j'ai découvert ces différentes stratégies, et tout particulièrement cette stratégie déduction, je me suis dit c'est génial, comment ne pas vouloir être une forme de mentaliste. Alors moi, c'était vraiment, j'adorais ce personnage de Patrick Jane du mentaliste, et Sherlock aussi, mais vraiment c'est aspirer à avoir ces compétences-là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai énormément lu, j'ai énormément creusé les stratégies, la stratégie Sherlock Holmes de Robert Dix. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur des formations en PNL, en programmation neurolinguistique, eh bien, il y a certaines stratégies qui sont enseignées, dont notamment la fameuse stratégie Walt Disney, dont on reviendra plus tard. J'ai vraiment envie de te faire un épisode là-dessus, petite parenthèse. Et également, sur cette stratégie Walt Disney, je t'expliquerai justement les limites selon la, on va dire, la version qui est sur les formations PNL et on va dire la version d'origine de Dils qui a été un petit peu bougée et une actualisation finalement de tout cela. À savoir que si tu as suivi notamment ma formation du rêve à la réalité, ben, tu as déjà des infos sur cette stratégie-là puisque c'est une stratégie imaginative. Parenthèse fermée. On revient à la stratégie Sherlock Holmes. Donc, stratégie Sherlock Holmes, Robert Dix a fait sa promodisation. Comme je l'avais expliqué après cet épisode, c'est super intéressant. J'adore ce que fait Robert Dix. Ça va vraiment dans le détail. Et en même temps, la structuration, elle manque un peu pour arriver à faire quelque chose qui soit simple et malléable. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai réussi à condenser, ce que je vais te donner là, qui sera simple et malléable. De là, je me suis inspiré de cela. Je me suis également inspiré d'un autre livre qui s'appelle The Monograph de Ben Cardal, qui est justement sur ses stratégies d'analyse et de déduction. J'avais à l'époque également creusé une autre chaîne YouTube américaine, je ne sais pas si elle existe encore, qui s'appelle The Art of Deduction. Je crois qu'elle était anglaise, elle n'était pas américaine. Et enfin, dernière source pour ce travail-là, qui était finalement la source de travail identique à celle de Robert Dills, mais justement, c'est bien de revenir aux sources, ce sont les écrits de Conan Doyle, et tout particulièrement les deux premiers écrits de Conan Doyle, où justement on a ce personnage de Sherlock Holmes qui explique un petit peu plus comment il fonctionne. Donc on a notamment le signe des quatre, qui est une de ses nouvelles, et également, si mes souvenirs sont bons, une étude en rouge. D'ailleurs, sur l'un d'entre eux, il est en train d'expliquer justement, et on retrouve cette scène dans la série Sherlock aussi, la série Sherlock m'a pas mal aidé à l'époque, une scène où finalement, alors dans la série Sherlock, il prend le téléphone portable de Watson, et à partir de son téléphone portable, il arrive à déduire que ce téléphone portable appartient à son frère, que son frère est alcoolique, et qu'ils ont très peu de rapports ensemble, et qu'il lui a donné le téléphone portable. Et dans la version originale du livre, eh bien, il prend une montre à gousset de Watson et il arrive à déduire la même chose qu'il a un frère alcoolique qui vient de se laisser tomber. Et donc c'est intéressant de voir un petit peu ces transpositions-là. Et cette scène est intéressante parce que justement, il explique les différentes étapes de sa stratégie que l'on va voir maintenant. Et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec deux points fondamentaux que tu dois comprendre sur cette stratégie-là. On pourrait même dire trois étapes, mais vraiment deux étapes fondamentales qui sont l'observation et la déduction. Donc observation d'abord, déduction après. Et généralement, on peut dire une troisième étape qui serait la conclusion finale qui finalement est une méta-déduction. Alors là, on pourrait se dire, bon ben ok, déjà on a les principes fondamentaux de la stratégie Sherlock Holmes. C'est quoi? C'est je vais observer différentes informations et après je vais en faire des déductions et ça ira bien. Sauf qu'on se rend compte que si on fait de l'observation et de la déduction, eh bien ça va pas marcher du tout pareil que Sherlock Holmes. Donc ça veut dire en d'autres termes qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cela. Mais qu'est-ce qui est donc caché derrière cela? Et bien pour le comprendre déjà, on va aller sur chacune de ces étapes. Donc les étapes, je te les ai données dans l'ordre. D'abord observation, puis déduction. Cependant, ce qui peut se passer, c'est qu'après une déduction, on peut refaire d'autres observations qui vont amener à d'autres déductions. De même, on peut faire une observation, une seconde observation, une troisième observation. Ces observations vont amener peut-être à deux déductions distinctes. Et ces déductions pourront amener à une autre déduction qui pourra être complété par d'autres observations qui vont amener à une autre déduction qui pourra amener à une déduction finale. Je ne sais pas si tu me suis encore là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que derrière cela, c'est que c'est une forme de Lego que l'on va avoir où on va compléter avec des petits éléments d'observation ça et là et on va avoir des brides de déduction. Je vais te prendre un cas concret. Si on prend, et d'ailleurs, on va prendre le sujet fondamental qui est mon domaine d'expertise, la connaissance de soi, et tout particulièrement l'énéagramme. On pourrait prendre la spirale dynamique aussi, mais on va prendre l'énéagramme. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu ne connais pas les 9 grandes familles de personnalités énéagramme, si tu n'as pas encore suivi ma masterclass gratuite énéagramme, et c'est pas bien si tu n'as pas encore suivi, tu as les liens dans la description. Idem pour spirale dynamique. Voilà. Parenthèse étant faite, donc on va prendre l'énéagramme. Tu as une personne que tu connais, par exemple un collègue de travail, et tu souhaites connaître son type de personnalité. Comme on le sait, l'énéagramme, c'est pas le MBTI, c'est pas, je dirais, le MBTI encore, il y a de la subtilité, on va dire. C'est pas le DISC, c'est pas la ProcessCom, on est vraiment sur des strates profondes de la personnalité. Donc, c'est très subtil pour trouver le type énéagramme d'une personne. Il suffit de prendre par exemple les fameux sous-types. Donc on a les 9 familles de personnalités, on a les 27 sous-types. Mais là, on se rend compte sur une même famille de personnalités, on peut avoir des subtilités. Par exemple, on va avoir certains qui vont être un type 2 qui vont fonctionner de certaines façons et d'autres de l'autre. Donc ça amène vraiment un niveau de profondeur très fort. Mais l'envers de la médaille, disons-le, c'est que justement, eh bien, c'est pas évident, ce n'est pas aisé de trouver son propre type de personnalité, et ça l'est encore moins pour arriver à détecter le type de personnalité de quelqu'un d'autre. Cependant, si tu m'as déjà vu donner des exemples de personnages célèbres ou autres, d'ailleurs tu pourras trouver j'ai fait une liste sur mon site internet, petite parenthèse, sur mon site internet Enneagram Alchimie. Tu tapes Enneagram Célébrité ou Enneagram Alchimie Célébrité et tu trouveras donc une liste de personnages fictifs ou réels sur tous les types Enneagram. Ça te permettra d'avoir une meilleure appréciation et il y a vraiment eu un travail de fond qui a été fait pour être vraiment sûr de mettre les bonnes personnes dans la liste. Je ne vais pas mettre des personnes sur lesquelles j'ai un doute ou vraiment de façon intuitive, je dis « Ah, mais ça va être tel profil ». Non, il y a quand même un petit travail de où on a creusé derrière. Je dis « on » parce que je ne suis pas le seul à avoir creusé derrière. Voilà, et puis c'est surtout, ça m'a embêté de voir qu'il y avait beaucoup d'informations fausses sur les différents types énéagrammes sur Internet, comme par exemple des... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc c'était nécessaire d'essayer de toucher au plus précis possible et au plus fiable. Alors, donc, on revient là-dessus. Donc, tout ça pour dire que c'est possible, déjà, premier point. C'est possible d'arriver à un type de personnalité. La grande erreur que l'on va faire lorsqu'on va chercher un type de personnalité, et c'est une erreur par rapport à la stratégie Sherlock Holmes, c'est de déduire trop vite. C'est-à-dire, je vais observer 2-3 éléments. Par exemple, je vais voir une personne qui va être face à moi. Cette personne va avoir un visage un petit peu bourru, colérique. Lorsque je vais parler à cette personne, elle va me répondre de façon un petit peu directe, un petit peu brute. Ben, je vais dire, ah, c'est clair, c'est évident, c'est un type 8 énéagramme. Donc là, en fait, c'est là où on va tomber dans la première grande erreur sur la stratégie Sherlock Holmes, c'est faire une observation et faire une déduction pendant l'observation, voire sans vraiment s'assurer qu'il y ait d'autres observations qui confirment ou qui infirment cela. Pour savoir, pour arriver à trouver définitivement le type de personnalité de quelqu'un, je dois m'assurer d'avoir eu d'autres éléments qui permettent de valider ou d'invalider mon hypothèse de départ. Donc là, on se rend compte que ça ne va pas être si simple. Alors on revient au point de départ. On revient à ces deux étapes d'observation et de déduction. La première étape, c'est l'observation. Donc on est sur l'observation. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire sur l'observation et qu'est-ce que tout le monde fait, moi y compris, et qui justement est super dur d'enlever? Eh bien, la grosse erreur que l'on fait lors de l'observation, c'est d'émettre des hypothèses, émettre déjà des déductions alors qu'on observe quelqu'un ou quelque chose. Sherlock Holmes est sur une scène de crime. Il se rend compte qu'il y a une femme qui est par terre, il y a une tache de sang qui est derrière le crâne et il regarde autour de lui. Et rapidement, on pourrait dire « Ah, cette femme est morte parce qu'on lui a donné un grand coup derrière le crâne. » Est-ce que c'est vraiment le cas? Et peut-être que si finalement on fait une analyse derrière, on peut se rendre compte, et probablement que Sherlock Holmes l'a vu, que finalement, c'est pas le coup dans le crâne qui a fait que cette personne est morte. Non, c'est qu'en fait, elle a à côté de cette personne, cette femme, il y a un verre. Dans ce verre, il y avait un poison. Elle a bu ce poison toxique. Elle a perdu l'équilibre. Elle est tombée. Elle a tapé son crâne contre la table qui est juste à côté. Et c'est là, justement, qu'il y a eu le choc. Mais en fait, ce qui a été létal, ça n'a pas été le choc, c'était le poison en amont. Et tu vois, cette subtilité-là, elle est liée à une déduction trop précoce ou une déduction simple liée à une observation. Et en fait, parmi les différents biais cognitifs qu'on a, on a vraiment ce raccourci-là. C'est de suite, voilà, j'observe quelque chose, bam, déduction, déduction. Et en même temps, c'est super séduisant. C'est de se dire, ah putain, j'ai réussi à déduire rapidement, facilement, sans effort, à moins de 10 minutes chrono. Donc là, on est sur des grandes promesses, sur-promesses de marketeux. Mais ici, derrière, la clé, c'est ça, déjà, premier point, c'est observer. J'observe, et je ne vais pas me faire d'idées préconçues sur ce que j'observe. J'observe de la façon la plus neutre, la plus froide possible. Et là, donc, on en vient à la PNL. Comment va-t-on observer? Eh bien, on va observer avec ce dont on avait parlé précédemment, ce qui s'appelle le VACOC, c'est-à-dire les cinq sens, mais de façon externe. Je vais observer d'un point de vue visuel, d'un point de vue kinesthétique, je vais toucher aussi, parce que c'est intéressant de toucher, le contact. D'un point de vue auditif, est-ce qu'il y a des sons? Et d'ailleurs, on va en venir sur l'énéagramme sur l'auditif, on va se rendre compte qu'il est beaucoup plus important que ce que l'on croit. Et accessoirement, olfactif et gustatif. Par exemple, Sherlock va sentir l'odeur du poison dans le verre. Bon, il ne va pas le goûter, parce qu'il n'est pas idiot. Mais tu comprends un petit peu l'idée. Mais il y avait par exemple une petite anecdote qui était très intéressante dans Sherlock Holmes, c'est que il avait appris les différentes variétés de cigares. Et donc il goûtait les cigares, il les regardait, il les observait, il les sentait, il les goûtait, les cigares d'une personne, pour justement savoir eh bien d'où venait ce cigare, quelle était son origine, et ainsi de suite. Et forcément, mais dans l'épisode en question, dans la nouvelle en question, ça avait un intérêt par rapport à l'enquête. Bon, nous, on ne peut pas... La quantité d'informations qu'on a autour de nous est immense, est tellement immense qu'on ne peut pas faire ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que déjà, inconsciemment, on va quand même utiliser cette stratégie Sherlock Holmes. C'est-à-dire que par rapport à nos domaines de compétences, nos domaines d'expertise, bien souvent, on va, d'une simple observation, on va déduire très rapidement des choses d'une finesse très forte que d'autres n'auront pas pu déduire. Par exemple, si tu me montres un jeu de tarot, typiquement, d'une personne qui a acheté un tarot, tu me montres le jeu de tarot, je regarde le jeu de tarot, j'observe le jeu, je peux te dire, ah mais ça, c'est un tarot qui est assez récent, ça c'est un tarot ancien, ça c'est un tarot originel qui date à peu près de telle époque. Et déjà, j'ai une information, mais cette information-là, elle est basée par mes connaissances, tu vois. Et donc, nos connaissances nous permettent d'avoir ça. Après, ça permet de faire des déductions. Et là, ici, justement, le fait de dire ça, c'est un tarot, ça, ben, on va reprendre cet exemple parce qu'il est intéressant, c'est d'abord une observation. Je regarde le jeu de tarot, je regarde les symboles. Je vais prendre, par exemple, un jeu de tarot avec les arcanes majeures. Je vais prendre les classiques. On va prendre le fou, le magicien, le pape, enfin bref, tout ce que tu veux. Je regarde les cartes. Là, j'observe et par rapport à mes connaissances, est-ce que c'est des cartes que je connais? Est-ce que je connais ce jeu? Est-ce qu'elles sont inspirées par rapport à d'autres cartes? Donc si par exemple, une personne me montre un jeu de tarot, je regarde et rapidement, dès la première carte qu'il me montre, qui est un 2 de bâton, je me dis, ah tiens, ça ressemble au 2 de bâton du jeu Rider-Waite, bien, je peux dire, ah, ce jeu de tarot, il est au moins, au plus vieux, il date du début du XXe siècle. Maintenant, je regarde le style et tout ça, et je me dis, ah, ben ça, c'est une adaptation moderne de tel tarot qui date de telle date. Et donc, il y a vraiment toujours l'observation, et après cette phase, et cette seconde phase, c'est la déduction. C'est je regarde les cartes, je vois, et une fois que j'ai vu les cartes, une fois que j'ai vu ce qui est, je fais mes déductions. Et mes déductions en me basant sur un contexte donné. Et ici, donc on est sur la partie déduction, et en fait, je me suis appuyé sur quoi? Je ne me suis pas appuyé sur rien, parce que si tu ne connais pas le tarot, tu ne peux pas le savoir. Je me suis appuyé sur des faits. Qu'est-ce qu'un fait? Eh bien, un fait, c'est une information permettant d'obtenir d'autres renseignements sur l'indice. Et donc, cette information-là, je vais la récupérer par rapport à ce que je sais de cela. D'ailleurs, vraiment, là, qu'on soit clair ici, je t'explique la stratégie Sherlock Holmes. On essaye d'aller le plus loin possible, mais on ne va pas aller dans la profondeur totale. Par exemple, sur les faits, il faudrait parler des... parce qu'on n'a pas le temps, tout, clairement, sachant que ce podcast va déjà être long. On a les faits culturels et les faits contextuels. Mais tout cela, j'en parle plus en profondeur sur la formation Master Enneagram. Donc vraiment la partie avancée d'Enneagram, puisque justement c'est un lien avec le typage de personnalité. Parenthèse étant faite sur ça. Donc on a une déduction qui est basée sur un fait. Mais on va revenir sur l'observation. J'ai glissé ça parce que tu vas voir, on va y revenir dessus. Et puis au moins déjà tu commences à avoir des bases. Donc l'observation... ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer de façon visuelle, par exemple. Là, par exemple, c'est tarot, j'observe de façon visuelle. Je peux observer le tarot de façon kinesthésique pour savoir si le jeu, il a été utilisé par la personne ou pas, ne serait-ce que toucher les cartes, voir si elles sont lisses ou pas, voir si elles sont un petit peu cornées, toucher le bord de la carte, voir s'il est un peu usé, un peu abîmé. Donc là, l'observation va se faire de façon kinesthésique. Et je te disais tout à l'heure... Donc là, on a pris cet exemple-là. On va reprendre un autre exemple de typage de personnalité. Donc, si je veux trouver le type de personnalité de quelqu'un, eh bien, à ce moment-là, parmi les cinq sens, les cinq sens en externe, c'est-à-dire je récupère une information de l'extérieur, eh bien, celui qui va être super important, c'est l'auditif. Le visuel va être intéressant, mais l'auditif va être super intéressant. Pourquoi ? Pour les mots, pour les phrases. Mais également aussi pour l'intonation de la voix. En fonction de la typologie de personnalité, en fonction du contexte, en fonction de la situation, eh bien, ne serait-ce que la tonalité de la voix ne va pas être la même. Si tu as des neufs avec toi, tu vas te rendre compte qu'ils ont un mode de discussion, une façon de parler qui va être plutôt douce, parfois un petit peu sec quand il va avoir un petit côté 8, mais ça va être plutôt des personnes qui vont amener dans leurs approches, façon de parler, du calme. Et en même temps, le calme, on peut très bien le trouver sur d'autres profils, par exemple sur un 6 plutôt survie, sur un 4 survie. Donc c'est là où on dit, bon ben voilà, ça c'est j'observe une personne qui parle de façon calme, mais ça m'amène une déduction qui est cette personne parle de façon calme. Je vais regarder les faits. Quels sont les profils qui sont susceptibles de parler de façon calme? Peut-être un 8, un 9, peut-être un 4, peut-être un 6. Et là, déjà, on a déduit des différentes choses. Du moins, on a fait quelques hypothèses. Mais ces hypothèses ne sont pas nécessaires. Utiles, mais ne sont pas nécessaires et suffisantes pour dire « Ah voilà, cette personne est forcément 8, 4 ou 6. J'ai besoin d'autres informations. » Alors du coup, on va revenir sur l'observation et on va écouter la personne parler. Et ce qui est intéressant, c'est justement la partie sémantique. Les mots. Les mots vont avoir beaucoup d'impact. Et ce que l'on peut voir, et ça pareil, si tu suis le tech Enneagram, j'avais mis un petit peu l'accent dessus, sur certaines parties. Eh bien, il y a des mots-clés en fonction des profils. Est-ce que je peux t'aider? L'amour, partage. Ça, c'est des mots qu'on va retrouver plus sur du 2. Des mots aussi qui sont reliés au contexte plutôt émotionnel, puisque c'est un profil plutôt émotionnel. Si j'entends, par exemple, kiffer, se faire plaisir, la liberté, s'amuser. Ben là, j'ai un contexte de mots. J'ai un contexte de mots qui est lié au type 7 Enneagramme. Et en même temps, si je connais la spirale dynamique, qui est une autre source d'information, eh bien, je sais que ça peut aussi être lié au niveau orange de la spirale dynamique, la partie liberté, plaisir. Donc, je ne vais pas me dire, ah, cette personne utilise ce mot. C'est souvent là où les personnes se trompent et vont typer des personnes en 7 alors qu'elles ne sont pas 7 ou un 3. C'est que justement, on nommait d'autres contextes qui sont par exemple à quel niveau d'évolution cette personne se trouve au regard d'une autre grille de lecture qui est la spirale dynamique. Je ne dis pas que c'est obligatoire d'utiliser la spirale dynamique pour arriver à faire l'observation, la bonne déduction, mais ça va plutôt et ça va être un outil complémentaire. Mais l'erreur que je viens de te... Là, on aurait dit un type 1 énagramme, la façon dont je l'ai dit. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire, cette erreur, surtout pas, parce qu'il faut éviter cela. Voilà, comme ça, on a tous les mots, enfin, on a quelques mots du 1 avec le « il faut », erreur. L'erreur, c'est justement de faire la déduction finale, la fameuse conclusion, trop rapidement. Bon, je te l'ai déjà dit en amont, mais vraiment, je souhaite insister là-dessus. Et plus tard, je vais avoir d'autres informations sur la personne qui vont permettre de confirmer ou d'infirmer cela. Si on fait une observation visuelle maintenant, on va faire une observation visuelle de cette même personne, et que je vois que cette personne a tendance à être plutôt agitée, à ne pas tenir sur place, à, quand elle s'assoit, à bouger le pied, bouger le genou. Si je vois également que cette personne, dans sa façon de parler, elle a plutôt un auditif sur la partie paraverbale, voilà, c'est le mot que je cherchais, donc les tonalités de voix, je vois qu'elle avait plutôt une énergie plutôt dynamique. Je vois également sur sa façon d'être qu'elle est plutôt une personne qui est, on va dire, joviale, et en même temps, je sens un petit côté de stress, d'angoisse chez cette personne. Bah là, typiquement, je suis en train de cumuler des informations qui semblent confirmer le 7. Maintenant, si cette personne-là, en plus, dans son... J'observe, encore une fois, qu'elle me parle de ce qu'elle va faire demain, et elle me dit, je vais faire ça, 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 et ça. Donc, j'observe auditivement qu'elle veut faire plein de choses demain. Donc, je vais passer à la phase de déduction. Et je me dis, attends, déduction, selon la réalité telle que je la connais moi ou telle que je la vois, c'est irréalisable de faire autant de choses en une journée. Comment, qui est-ce qui peut avoir cette attitude-là de planifier, déjà, un, de planifier le lendemain, deux, de le planifier avec enthousiasme, et trois, de le planifier de façon surréaliste. Ah, et bien là, typiquement, on retrouve encore une fois du 7 énéagramme. Donc là, j'ai une observation, c'est-à-dire cette notion de planification, qui m'a amené sur une première déduction qui est, on dirait, du 7. J'ai une autre observation. C'est une sémantique de mots, kiff, plaisir, s'amuser, qui semble aller vers du 7. J'ai une 3, donc vers déduction, il semblerait que ça ressemble à du 7, plutôt dans la seconde, on va mettre la nuance. Ça ressemble à du 7 ou un niveau orange de spirale dynamique. Troisième observation, cette personne, elle bouge beaucoup, elle est excitée, elle ne tient pas en place. Donc, déduction, ça ressemble un peu avec du 7, ça peut être un hyperactif. Ok. Et là, je vois qu'en fait, sur les différentes déductions que j'ai faites, il y a toujours ce 7 qui revient, qui peut être optionnel, mais en même temps, il revient de façon récurrente. Donc, j'ai toute une série de déductions que j'ai faites à partir d'observations isolées. Et de toutes ces déductions, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une déduction de conclusion qui est « Il est fort probable que cette personne soit de type 7. » À noter ce que je viens de te dire. « Il est fort probable. » Ce n'est, j'ai pas dit « C'est une personne de type 7. » Et je vais garder cette probabilité forte. Je vais y mettre peut-être un 80-90%. C'est pas de marin d'ailleurs, ça, de mettre un pourcentage. Je vais y mettre un 90%. Et puis, au fur et à mesure du temps, des semaines, des mois, je vais constater, je vais observer chez mon interlocuteur, mon interlocutrice, d'autres façons d'être. Et en fonction de ces autres façons d'être, eh bien, là, du coup, j'amènerai soit de quoi confirmer, ou soit de quoi peut-être infirmer ou mettre le doute. Peut-être qu'à un moment donné, je vais revoir cette personne dans un autre contexte et je vais voir cette personne super anxieuse qui va être très orientée sur les problèmes, sur une anticipation de scénario du pire, tout ça. Je me dis, ah, putain, c'est intéressant là. J'ai une observation et cette observation, elle semble m'amener vers un type 6 énagramme alors que je l'avais typé 7. Donc là, je me retrouve avec une observation qui m'amène une déduction. Cette déduction, c'est il y a du 6 chez lui. J'avais une autre observation. Je vais reprendre l'autre déduction précédente. Probabilité à 90% de 7. Au regard d'autres observations. Donc j'ai ces deux déductions-là. Et là, je me dis, ah, attends, qu'est-ce que je connais par rapport à l'énagramme? Donc on revient aux faits, c'est-à-dire à mes connaissances. Ce que je connais de l'énagramme, c'est que le 7 et le 6 sont voisins. Donc ça veut dire que il est possible, il est probable que cette personne soit un profil 7 énagramme avec un profil secondaire 6. Mais ce qu'il se passe aussi, c'est que peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai surévalué mes observations de base. Parce que les premières observations que je les ai faites, je les ai faites sur un contexte donné. Je les ai faites pendant une interaction avec cette personne qui a duré une heure. Or, une personne dans une situation donnée donne des indices, mais ne dit pas ce qu'est cette personne dans sa généralité, dans son monde tous les jours. Donc, peut-être que cette personne est en fait 6 avec une aile 7. Donc, là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que ça rebat un petit peu les cartes. Ça rebat et en même temps, on n'a rien perdu. On affine. Et c'est vraiment ce travail-là d'observation et de déduction qui va faire que progressivement, tu vas aller de l'hypothèse, d'un maximum d'hypothèses déductives, jusqu'à une finesse et une pertinence qui va dire « c'est ça ». Voilà donc tout ce qu'il y a, mais une grande partie de ce qu'il y a à savoir, à connaître sur la stratégie Sherlock Holmes. Je vais te la résumer rapidement. La stratégie Sherlock Holmes, ce sont vraiment deux étapes fondamentales, ou du moins deux blocs, deux bulles, on va les appeler des bulles. Une bulle d'observation et une bulle de déduction. Lorsque je fais une bulle d'observation, j'observe et j'essaye d'être le plus impartial possible, ce qui est très difficile comme on l'a vu. Et après, de ces observations et de différents faits, de mes connaissances, je vais faire des déductions. Sachant que ces deux bulles-là, elles peuvent se combiner. Donc, ce que je t'avais dit en amont, c'est une observation peut amener une déduction, 30 observations peut amener une seule déduction, ou on peut avoir 15 observations qui vont amener une première déduction et 15 autres observations qui vont amener une seconde déduction. Et après, les bulles de déduction, eh bien, je peux les combiner. Je peux dire que la bulle de déduction 1 plus bulle de déduction 2 m'amène à une déduction numéro 3. Ou alors que la bulle de déduction 1 plus bulle de déduction 2 plus une nouvelle observation va m'amener à la déduction 3. Jusqu'à après, peut-être renforcer avec d'autres observations, d'autres déductions, et arriver à la déduction finale. Voilà, donc c'est là où finalement, en fait, cette stratégie Sherlock Holmes est simple et en même temps est pas facile à appréhender parce que, comme tu peux le voir, on est sur une approche plutôt organique des choses. C'est-à-dire que c'est une approche un peu mouvante. On ne peut pas dire il faut que tu observes 30 choses et de là tu vas faire 3 déductions. Non! Ça va dépendre des contextes, ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de ce que tu veux observer. De même sur les déductions, est-ce qu'au bout de 30, au bout de, je sais pas, on dit combien faut-il de déductions pour avoir déduction finale? Ça peut être des grandes questions, on va dire, très littérales. Mais en fait, c'est impossible de répondre. Peut-être dans un cas, il faudra 2 déductions, peut-être dans un faux cas, il en faudra 10, peut-être dans un autre cas, il en faudra 10 qui après devront être complétées par 3 autres. Donc c'est là où finalement on a toute la subtilité. Et enfin, dernier point, il y a aussi les types de déductions. Donc ça, j'en ai pas parlé en amont, mais ça, on en parle plus sur le master Enneagram. Mais c'est juste pour que tu saches, il y a les types de déductions qu'on appelle les inférences, c'est-à-dire un type d'action ou d'événement qui aurait pu produire l'indice en question. On a également les déductions qui sont appelées les hypothèses, déterminer le sens ou la signification d'un indice. Et enfin, les déductions qui sont des faits, qui sont des informations permettant d'obtenir d'autres renseignements sur l'indice. Donc ça, les faits, on en a parlé quand même pas mal avec l'énéagramme et les différentes connaissances ou spirales dynamiques, différentes connaissances que tu vas mettre en amont. Et là, sur les faits, on va voir plusieurs types de faits. On va, d'ailleurs, pour les hypothèses, ça va être un peu la même chose. Des hypothèses et des faits contextuels et des hypothèses et des faits culturels. Voilà donc sur cette stratégie Sherlock Holmes. J'espère que ça t'aura plu. Si tu veux aller plus loin avec moi sur stratégie Sherlock Holmes, eh bien, ça sera plus sur le niveau avancé de l'énéagramme qui s'appelle le Master Enneagram, qui permet d'avoir la certification maître praticien Enneagramme. Mais justement, si tu veux en savoir plus et que tu n'es pas encore élève de mes formations tech ou master, je t'invite vivement à regarder le premier lien en description qui te donne une masterclass gratuite, 100% gratuite, si elle est encore disponible, elle n'y est pas toujours, sur l'Enneagramme. Et de même, toujours pareil, si elle est disponible, tu as une série de vidéos gratuites pour comprendre les différents niveaux d'évolution de la spirale dynamique, dont on reparlera d'ailleurs plus tard sur un podcast, donc ça peut être pas mal que tu les regardes d'ici là, parce qu'on ira un peu plus en profondeur. J'espère que tout cela t'a plu, tu me le diras en commentaire. N'hésite pas à me faire une note sur la plateforme podcast sur laquelle tu écoutes, tout particulièrement Apple Podcast et SoundCloud, 5 étoiles, c'est juste hyper, hyper aidant pour le référencement de ce podcast. Et quant à nous, on se dit à plus tard. Je ne sais pas si la semaine prochaine, on va parler d'une autre stratégie d'excellence ou si on va parler de toute autre chose encore. J'ai quand même des choses à dire intéressantes sur ton type de personnalité, pourquoi tu dois t'intéresser à ton type de personnalité. Bref, on verra tout cela très rapidement, ça sera la surprise pour le prochain épisode, ça dépend beaucoup aussi de mon inspiration du moment. J'espère que tu auras kiffé et on se dit à très vite. Ciao.